Alors, être artiste, c'est d'abord d'être investi dans l'art, mais à sa source. Donc, c'est-à-dire dans la création, ou même dans ce qui se passe avant la création, en fait, avant l'activité d'une œuvre. C'est en fait s'être dans une relation au monde, et cette relation au monde, elle est peut-être décalée, sûrement décalée, oui. Et cette relation, elle permet d'en restituer quelque chose, et peut-être de manière obsessionnelle aussi. Donc l'obsession, ça peut être vu comme une tare, mais c'est en fait un moteur puissant pour les artistes. L'obsession ou l'entêtement, peut-être. Et voilà, donc pour moi, être artiste, c'est se situer dans des endroits comme ça, dans des endroits qui échappent à l'autorité, qui échappent aux normes, mais aussi pour en adresser quelque chose aux autres. Donc il y a l'idée d'une adresse à l'autre aussi.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison-Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? La pratique d'Agnès Fornells s'est développée à partir de séjours à l'étranger, et particulièrement en Espagne et en Amérique latine, généralement en lien avec un contexte urbain et de rue. Elle utilise principalement l'image photographique et la vidéo, dans laquelle une place importante est parfois faite aux mots. Elle s'intéresse à l'usage et à l'appropriation de l'espace public, du travail à la fête, et elle regarde de près les objets usuels et outils, ainsi que les écrits aperçus sur les murs. Son attitude consiste à se mettre à l'affût de situations visuelles susceptibles de retenir l'attention au gré de la marche et, comme elle le dit, de se laisser dériver. À partir de ce travail de collecte d'images qu'elle emmagasine, elle organise ses cadrages afin d'isoler et décontextualiser les objets en les détournant de leur fonction primaire, utilitaire, pour les emmener ailleurs et les introduire dans la sphère esthétique. Puis, elle les laisse face à la puissance de l'imaginaire du regardeur. Donc, Agnès Fornells, donc nous sommes chez toi. C'est-à-dire dans ton appartement, ton lieu de vie, qui te sert également de lieu pour travailler, ton atelier.
Oui, tout à fait.
Alors, comment ça se passe ?
Effectivement, je n'ai pas à proprement parler d'atelier. Mais ici, chez moi, donc une partie de mon logement est dédiée au travail d'atelier. Et en fait, comme je vis seule, l'ensemble de mon appartement peut aussi être considéré comme mon atelier. Et pendant assez longtemps, en fait, dans ma pratique, j'avais pas de pratique d'atelier, mais j'avais plutôt une pratique d'ordinateur ou de bureau.
Qui peut se faire partout.
Voilà, parce que je travaillais surtout avec des images, photos ou vidéos que je réalisais ailleurs, en fait. Mm-hmm. Donc, en dehors de mon espace personnel, dans la rue, ou dans des espaces sociaux, ou à l'étranger. Donc, le travail se faisait pas forcément dans un espace typiquement défini comme un atelier, en fait.
Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton processus créatif ? Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu es souvent à l'étranger. L'étranger, pour toi, c'est souvent le pays de langue hispanique.
Oui, l'Espagne ou l'Amérique latine.
Oui. Parce que ça, c'est une attirance personnelle ou c'est parce que tu parles la langue, parce que tu y vas en résidence?
Oui, en fait, j'ai eu l'occasion pendant mes études aux Beaux-Arts et juste après de faire des séjours en Espagne. Et effectivement, je parle espagnol, mais c'est pas ma langue, c'est pas ma langue maternelle. Et par contre, je parle pas anglais. Enfin, je suis assez mauvaise en anglais et donc il y avait aussi ce rapport. Avec une langue qui à la fois n'est pas la mienne, mais avec laquelle je peux me débrouiller en quelque sorte. Et après, la langue, c'est aussi un rapport au monde et tout ça. Et c'est vrai que j'avais une attirance plutôt liée à l'hispanité. Donc après l'Espagne, il y a eu des séjours dans différents pays d'Amérique latine. Voilà, donc mon travail, en fait, il s'est développé à partir de cette perception étrangère de l'espace public et en particulier l'espace des rues urbaines. Et voilà, grâce à des séjours que j'ai pu effectuer dans des villes qui m'étaient inconnues. Donc il y a l'idée d'un rapport étranger à une ville.
Donc ça passe par la découverte et aussi la surprise de découvrir des pratiques, des cultures qui
me
semblent
c'est le fait d'être étonné et de voir des choses qui sont peut-être habituelles pour les gens qui les vivent, mais d'un regard qui vient d'ailleurs, ça questionne en fait une certaine façon de se relier au monde. Voilà, donc ce processus de travail, ça englobe différents éléments qui participent. Et donc, il y a cette idée du langage comme une façon de voir le monde. Il y avait aussi des choses qui m'ont beaucoup intéressée quand j'ai commencé mes séjours en Espagne. C'était le chant ou la danse, donc il s'agissait du flamenco. Mais qui sont perçus non pas comme un spectacle, mais comme une façon d'être ensemble et comme une expérience quotidienne de partage en fait, comme quelque chose qui est vécu sans l'idée de représentation, de spectacle. Voilà, il y avait aussi l'idée de l'usage et de l'appropriation de l'espace public par différentes activités qui peuvent aller du travail à la fête. Donc en fait, selon à quelle époque on se réfère dans mon parcours, il y a différents éléments qui ont contribué comme ça à ma pratique. Je me suis intéressée aussi aux objets usuels et aux outils. Et aussi aux écrits et aux signes sur les murs. Donc ça englobe beaucoup de choses et ce sont quelques exemples des éléments qui peuvent entrer en jeu dans mon travail.
Tu pars avec un appareil photo, tu prends des photos, tu fais des vidéos, tu fais un travail de collecte, de documentation. Ensuite, tu vas retravailler, revenir en
France. C'est ça, ouais. C'est comme si je faisais un petit stock, en fait. les périodes de séjour, c'est des moments surtout de recherche, où il y a des idées qui vont se mettre en place. Mais c'est aussi des moments où je vais emmagasiner, en fait. Donc, je travaille beaucoup avec l'image, mais pas que. Ça peut être aussi des choses que je trouve sur place, ou des matériaux, ou d'autres choses. Et en fait, tout ça, ça constitue une matière, un stock, si on peut dire, que je garde en réserve, que parfois j'oublie, mais en fait, qui continue à être une ressource avec laquelle je peux travailler pendant longtemps après, en fait. Et c'est pas mal parce que c'est bien d'avoir aussi un peu de distance par rapport à la relation directe qu'on a eue avec les choses pendant... un séjour, par exemple, et puis d'avoir une relation avec ces mêmes éléments, mais plus distante et plus posée, et plus, en les regardant d'ailleurs, finalement. Donc ça permet d'en faire des choses tout à fait différentes. Donc, une vidéo que j'avais faite qui s'appelle « Viva la Saeta », par exemple, où j'avais filmé des gens qui chantaient dans la rue. J'ai repris ces images des années après, et j'ai fait des choses avec que je me serais jamais permise au moment où j'ai filmé. Notamment, j'ai enlevé le son alors que c'était des gens qui chantaient.
Ah oui.
Voilà, donc, par exemple. Mais voilà. Mais après, j'avais peut-être autre chose à dire sur la question de l'atelier.
Oui, parce que justement, j'allais y revenir. Oui, parce que, une fois que tu as emmagasiné tous ces éléments à l'étranger, tu reviens chez toi.
Ouais.
Et ensuite, la deuxième partie de ton travail commence avec cette base de données. Et donc, c'est dans cet endroit-là que tu travailles.
Oui. Alors, ici, ça fait seulement 2 ans que j'habite ici. Donc, d'accord, ça a été d'autres endroits, d'autres moments. Mais effectivement, c'est beaucoup... Comme je fais de la photo ou de la vidéo, donc je faisais beaucoup de vidéos au début, c'est beaucoup un travail d'ordinateur, de retravailler les images, de faire du montage, par exemple. Mmh. Et ce qui se passe, en fait, quand on n'a pas vraiment d'atelier à proprement parler, on n'a pas, en fait, d'espace où on peut étaler les choses et, par exemple, tester des accrochages. Donc, même si j'ai pas de pratique qui nécessite un atelier, peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui manque, c'est-à-dire d'essayer des mises en espace, des mises en situation. Donc, par rapport à ça, moi, je pense qu'un lieu d'exposition dans lequel on a l'occasion d'imaginer quelque chose, spécifiquement pour cet endroit, c'est une continuité de l'atelier, en fait. C'est un lieu de travail, de pensée, et plus particulièrement sur les questions qui vont être liées à l'accrochage et à la mise en espace. Voilà. Et puis, il y a d'autres espaces qui peuvent être aussi des lieux de travail temporaires. Par exemple, pour réaliser quelque chose avec une machine particulière. Donc, j'ai eu une fois l'occasion de faire un projet en rhizographie, ou les résidences d'artistes, en fait. Donc, les résidences d'artistes, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes. Et dans une qui a été dans un atelier qui était dédié à la céramique. Donc là, c'est pour le coup, c'était vraiment un atelier équipé et dédié à une pratique bien spécifique. Et donc ça, c'est... Voilà. J'ai eu l'occasion de faire ça avant de pouvoir déplacer cette pratique chez moi. Mm-hmm. Parce que j'ai longtemps travaillé avec l'image, mais pas que. Et en fait, depuis 2018, date de cette résidence, j'ai commencé à avoir une pratique de petites pièces en volume et avec la céramique, en fait.
Oui, c'est ça, ouais. C'est quelque chose qui est nouveau depuis quelques années, mais qui va nécessiter, en effet, peut-être un peu plus de place pour travailler.
Voilà.
Ou alors tu te déplaces toi-même pour aller travailler ailleurs.
Alors, en fait, je fais tout ici. La seule chose que je ne fais pas ici, c'est la cuisson. Donc, j'amène les pièces ailleurs pour les cuire.
Oui.
Et donc, il y a la question un peu du transport, parce que quand on va faire cuire les pièces, il faut qu'elles soient sèches. Mm. Et c'est le moment où elles sont le plus fragiles, en fait, quand elles sont crues et sèches. Donc, c'est le moment où je dois les transporter pour aller les cuire. Mais bon, voilà, je commence à prendre la main pour faire ça. Et puis, tout le reste, je le fais ici, chez moi. Et en fait, ça a commencé... En 2018, j'ai fait la résidence. En 2019, j'ai fait une formation en céramique avec les mêmes personnes. Et après, on est entré dans les périodes de confinement. Mmh. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à faire ça chez moi, en fait.
Mmh.
Et j'ai aménagé mon espace pour avoir un coin de travail. Bon, le problème, c'est que c'est un peu salissant, mais voilà.
Et donc, pour revenir à la question de l'atelier, pour toi, finalement, l'atelier, il est un peu partout. En fait, il est à partir du moment où toi, tu es dans un lieu pour travailler. Voilà, ton atelier...
Ouais, un peu nomade, ouais. En fait, il est dans la tête aussi, l'atelier.
Surtout.
Et puis, il peut être aussi dans la marche, en fait, dans l'idée d'arpenter un espace. Puisque... il y a aussi ça dans mon processus de travail, c'est de enfin, de beaucoup arpenter. Parfois, c'est des très grandes villes comme Mexico, donc j'ai passé des journées entières à marcher, un peu pour collecter des images, mais aussi pour circuler dans l'espace qui va être la source d'une inspiration.
Voilà, quoi. C'est ça. Et c'est comme ça que les idées, petit à petit, se mettent en place. Et ensuite, tu trouves les formes qui vont leur permettre de s'exprimer.
Oui, après, ça, selon les projets, ça fonctionne différemment. Mais il y a comme un second temps, en fait, par rapport au, si je travaille avec l'image, par rapport aux images. Un recul. Et voilà, enfin, parce que j'aime bien déplacer les images, les sortir de leur contexte en fait. Donc voilà, c'est après, je vais essayer de trouver la façon de le faire en fonction de chaque ressource que j'ai pu récolter.
Alors, si on revient à l'origine de ton parcours d'artiste, est-ce que tout au départ, ça te vient d'une envie par ton milieu familial, ou est-ce que tu avais déjà très tôt conscience que tu avais envie de t'orienter vers une carrière artistique? Comment ça s'est passé?
Eh ben, par rapport au milieu familial, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enfant, mon père faisait de la photo. Et donc j'ai eu une relation assez précoce à la photographie, parce que j'en faisais avec lui, parce que j'utilisais son appareil donc argentique, le courant, le 24-36, et j'ai commencé à faire de la photo assez tôt avec son matériel à lui. Et puis aussi avec lui j'ai manipulé différents outils. Il y avait par exemple un appareil 6-6, dans lequel on voit en plongée, en fait, et où on voit l'image inversée, la droite et à gauche, et la gauche et à droite, et c'est en format carré, le 6-6, c'est de la diapo. Et on avait aussi un projecteur de diapositive dans ce même format, avec lequel on faisait souvent des projections dans le noir. Et aussi, on improvisait assez régulièrement un labo de développement argentique dans la salle de bain pour faire du tirage en noir et blanc. Donc, il y avait dans tout ça une sorte de magie de la lumière qui dessine et qui fait surgir des choses dans l'obscurité. Donc ça, je pense que ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'imagine que ça marque beaucoup d'enfants de toutes les façons. Ouais. Et voilà, tout ça, ça m'a induit une sorte de une certaine fascination pour ces phénomènes d'apparition ou de déplacement des images, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la photographie. C'est la possibilité d'un dédoublement du réel qui permet de l'amener ailleurs. Alors, ça peut être ailleurs temporellement, ailleurs spatialement, ailleurs conceptuellement aussi. Donc ça vient sans doute de cette époque-là, de ces expériences que j'ai vécues quand j'étais enfant. Et voilà, la photo, c'est mon premier lien avec on va dire la création, la question de l'art, et c'est quelque chose que j'ai pas fait que de la photo, mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, qui est important. Même si je ne me considère pas comme photographe.
Mais donc, ça t'a donné envie de poursuivre sur cette voie-là, quand même, dès le départ?
Là, je ne sais pas, j'avais pas vraiment conscience de... Non, à ce moment-là, j'avais pas conscience de ça, en fait. Je ne savais même pas si... Je savais que ça existait, des écoles d'art, par exemple.
Justement, est-ce que tu as fait une école d'art?
Oui, j'ai fait l'école d'art, l'école des beaux-arts de Montpellier.
Et là, tu t'es spécialisée dans l'image, justement, photographique, vidéo, ou tu as essayé différentes pratiques?
Selon les années du parcours, du cursus, en fait, les premières années, première et deuxième année, on fait de tout. On a des cours qui sont dédiés à toutes les disciplines, donc ça permet de... Tester. Voilà, de tester différentes choses, etc. Et puis, même jusqu'en troisième année, donc c'est l'année du premier diplôme. Et après, quatrième et cinquième année, on est plus dans des choix personnels à chacun. Mmh. Effectivement, j'étais plutôt sur l'image photo. J'ai essayé de faire de la peinture, mais on m'a fait comprendre que c'était pas mon truc, avec raison d'ailleurs, mais bon, voilà. Et mais en fait, c'était assez ouvert, quoi. C'est une école qu'avec les disciplines art, en fait. Il n'y a pas art appliqué ou autre chose, donc voilà. Mais j'ai fait aussi une école préparatoire. Avant l'école de Montpellier, j'ai fait l'école préparatoire des Beaux-Arts de Sète.
D'accord. Et est-ce que tu aurais un souvenir précis dans ta vie où tu as senti que ça y est, tu devenais artiste ou... ou que tu savais en tout cas que ta vie allait s'engager complètement là-dedans?
Non, je pense pas. J'ai l'impression que ça s'est plutôt fait à mon insu, entre guillemets. Enfin, que ça s'est fait progressivement, que ça s'est installé comme ça. Il n'y a pas eu comme un moment fort, décisif. Si ce n'est celui de faire une école d'art, quand même. Après le bac, je ne me voyais pas du tout aller à la fac, faire un cursus universitaire. Je faisais en terminale, j'avais option art plastique. Mm-hmm. Et là, dans la classe, il y a quelqu'un qui m'a dit « Toi, tu vas faire les beaux-arts ». Et je me dis « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Ah, mais oui, les beaux-arts, ça existe ». C'est vrai que quand on est lycéen, quand on nous donne nos perspectives pour la suite... On ne parle jamais des écoles d'art, en fait. Exactement. Et donc, comme quelqu'un a dit ça, je me suis dit « Ah, mais oui, ça existe, en fait. » Et là, c'est vrai que là, ça a été une sorte d'évidence assez libératrice, parce que j'aurais pas aimé aller à la fac, je pense.
Mm-hmm. Là, t'as eu la chance de tomber tout de suite dans la bonne direction.
Voilà. Alors, l'école préparatoire à 7, ça a beaucoup aidé quand même, hein, parce que j'étais quand même pas, j'avais pas quand même fait grand-chose quand j'étais lycéenne. Et l'école de 7, c'est un an qui est complètement dédié à ça, avec 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Donc, c'était vraiment... ça m'a bien préparée pour les concours d'entrée. Et après, j'ai jamais vraiment envisagé de faire autre chose sérieusement. Enfin, j'ai fait d'autres choses, mais de faire un métier, disons.
Parce que tu considères que artiste c'est un métier ou est-ce que tu considères que ça n'est pas
C'est difficile à dire, justement, mais par exemple, je pense que c'est un travail et que c'est un travail qu'on peut faire de façon professionnelle. Mais le métier, c'est particulier parce que le métier, c'est comme une compétence bien définie, précise et circonscrite, etc. Alors que artiste, bien sûr, il y a des compétences, mais c'est aussi la compétence de faire autre chose, d'aller voir ailleurs, d'aller voir dans d'autres domaines. Donc,
c'est pour ça. Comme tu disais tout à l'heure. Certaines facultés t'aident beaucoup, comme justement l'obsession ou l'entêtement, en tout cas l'obstination.
C'est plus ça. Donc c'était pas comme une grande décision, mais c'était quelque chose qui reste, quoi. Enfin voilà, qui est permanent. Et c'est une question de métier. Par exemple, moi, on me définit souvent comme photographe. Et moi, j'ai l'impression que je ne suis pas photographe, parce que pour moi, photographe, c'est un vrai métier. Il y a des écoles pour apprendre la photo. Et moi, des fois, je ne sais même pas avec quel matériel je travaille. Enfin, ça me passe complètement au-dessus de la tête. C'est le principe de la photographie. Enfin, voilà, pour moi, je suis artiste, et entre autres choses, j'utilise la photo.
Donc, il y a un goût et une attirance pour l'Espagne, pour la langue. Et puis, évidemment, il y a les voyages que tu fais et qui sont vraiment des éléments qui nourrissent ta pratique.
Oui. Donc, de toute façon, je pense que d'une façon générale, bah, la vie, elle est à l'origine de toute création d'œuvre, parce que bah, c'est dans une relation à ce qui nous environne qu'on travaille. Mon travail, il ne se situe pas trop en lien avec vraiment des éléments biographiques, c'est pas du tout lié à l'autofiction ou des choses comme ça, mais de toute façon, ça s'imprègne de ce que je vis, quoi. Et c'est vrai que bah, pendant mes études et juste après, donc Beaux-Arts, pendant ces jeunes années-là, je faisais bah, justement des nouvelles expériences grâce à des séjours en Espagne. Donc j'avais fait un échange avec une école quand j'étais en troisième année, peut-être. Oui, c'est ça, troisième année. Et ensuite, après ma sortie à l'école, j'avais programmé des séjours de recherche en Espagne. Et donc, ces nouvelles expériences, c'était par exemple bah, voyager seul sans ses repères habituels, communiquer dans une langue étrangère et parcourir une ville inconnue. Et ça a déclenché en fait énormément de choses dans mon travail. C'était vraiment le déclic qui, voilà, l'impulsion, quoi. Dans ma vie personnelle, je me suis intéressée, je le disais tout à l'heure, au chant et à la danse. Donc d'abord, c'était dans le domaine du flamenco. Mais plus tard, ça a été avec le tango. Et en fait, j'ai aussi, enfin, j'ai dansé le tango, j'ai pris des cours et j'ai dansé dans des bals pendant 10 ans, voire plus, le tango argentin. Et ça, effectivement, ça a donné lieu à des vidéos, à des œuvres en vidéo. Donc pour le flamenco, il y avait Viva la Saeta, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est mes œuvres qui a été le plus diffusée, et qui est dans des collections et qui a été le plus montrée en fait. Et il y a aussi eu Sambombas sur le flamenco. Et puis pour le tango, j'avais fait une installation vidéo qui s'appelait La Mirada, qui veut dire le regard, qui était sur en fait ce qui n'était pas sur la danse, mais qui était sur tout ce qui se passe autour de la piste de danse, ce qui se passe entre les gens. Quand ils sont pas en train de danser et quand justement ils veulent inviter quelqu'un à danser. Voilà, donc ça c'est un peu les liens avec mes expériences personnelles. Après, y a des événements, c'est pas des éléments biographiques, mais des événements qui peuvent transformer un projet aussi. Quand j'étais à Rio de Janeiro, par exemple, j'ai été dépouillée de tout mon matériel photo, vidéo. Donc c'est voilà, effectivement, c'est un endroit où on ne peut pas déambuler dans les rues avec comme ça du matériel. Et suite à cet épisode, bah, en fait, j'ai reconfiguré tout mon projet, qui était un projet lié à la balade photographique. Et j'ai travaillé à partir de choses que j'ai vues, qui auraient pu être des photos, mais avec des matériaux que j'ai trouvés sur place et avec l'écriture en fait. Donc il y a aussi parfois l'écriture qui intervient dans mon travail.
Oui, c'est ça. Donc, tu t'adaptes finalement en fonction de ce que tu vis et ça transparaît dans ton travail. En tout cas, ça te permet de partir vers des orientations que tu n'avais pas prévues.
Bah, je trouve que c'est ce qui est intéressant aussi, parce que si on fait que des
Exactement.
choses programmées, voilà. Non, c'est
Exactement.
la surprise, bah, c'est l'interaction aussi avec la réalité d'un lieu, les circonstances d'un lieu.
Alors, dirais-tu que donc depuis ta sortie de l'école, est-ce que tu t'es sentie soutenue par différentes personnes pour avancer dans ce parcours qui n'est pas simple, le parcours d'un artiste, et en particulier peut-être, tu vas nous le dire, le parcours d'une femme artiste?
Oui. Alors, oui, j'ai été soutenue. Donc, tout juste à la fin de mes études aux Beaux-Arts, mon travail, il a été sollicité pour la Biennale des jeunes créateurs d'Europe et de la Méditerranée. Et donc, je me rappelle, J'étais un peu décalée quand même à cette époque-là, quand j'étais étudiante, et je me rappelle avoir été très surprise que ces responsables qui étaient venus voir en fait les accrochages de cinquième année, ils veuillent exposer mon travail en fait. Mais bon, ils m'ont recommandé de candidater, je les ai écoutés, et voilà, ça a commencé comme ça, avec cette biennale. Et puis, j'ai aussi, assez tôt, j'ai bénéficié d'une aide individuelle à la création. C'est notamment ce qui m'a permis de faire des séjours en Espagne. Donc ça, c'était très important aussi.
J'imagine.
Ouais. Après, j'ai été soutenue un peu plus tard par des programmes post-diplôme d'un réseau des écoles d'art du sud de la France qui existait à ce moment-là. Et donc, grâce à ces programmes-là, j'ai pu faire une résidence, la résidence à Rio de Janeiro, et puis une autre à Berlin aussi. Voilà. Puis plus tard, il y a eu une première acquisition suite à une expo au CRAC à 7. Et puis après, il y a eu le soutien du FRAC. Après, il y a aussi peut-être quelque chose qu'on mesure mal en termes de soutien. C'est les relations avec d'autres artistes, en fait.
Qui sont très importantes.
Oui, les liens entre artistes, c'est très important. Et bon, j'ai fait partie d'un collectif à Montpellier, assez longtemps. Je me rends compte aussi que j'ai souvent été invitée par des artistes à faire des projets. Et même en dehors de ça, je pense que... avoir un retour positif d'autres artistes sur son travail, avoir des conversations sur le travail, c'est un très gros soutien, parce que ça encourage en fait, ça encourage à continuer.
Ah oui, être reconnu
donc,
par ses pairs.
Même si c'est pas un soutien concret, palpable, même avoir une relation avec des artistes, être dans un échange autour de sa pratique et de celle des autres, c'est ça. Et voilà. Et puis aujourd'hui, je suis soutenue par une galerie à Montpellier. C'est la galerie Alma. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard quand même dans mon parcours. C'est assez récent en fait. La première expo dans cette galerie, c'était en 2020. Voilà. Et puis avant ça, j'avais eu quelques collaborations avec la galeriste avant d'exposer vraiment dans la galerie. Donc c'est quand même assez tard, puisque je suis sortie de l'école en 99, 98. Et voilà, donc je dirais que j'ai été soutenue, mais je ne suis pas très visible en dehors de la région quand même. Je n'ai pas de galerie à Paris ou ailleurs. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'opportunités d'exposition en dehors de l'Occitanie, on va dire. Enfin, si ça peut arriver, mais ça reste très ponctuel. Et voilà, donc j'ai été soutenue, mais peut-être en même temps dans une certaine limite géographique. Voilà, donc je pense que le soutien, ça va de pair avec la présence, la permanence et l'endroit où cet engagement, il est visible, en fait. Voilà, par rapport au fait d'être femme, je sais pas particulièrement de choses notables à dire là-dessus, je sais pas.
T'as pas senti que ça pouvait être un frein ou ça pouvait être... Donc ton travail, il a toujours été accepté sans qu'on puisse tout de suite dire « Ah, c'est un travail de femme, donc on l'aurait dévalorisé. »
Alors ça peut arriver qu'on dise que c'est un travail un travail féminin, pas forcément pour dévaloriser, mais je sais pas. Maintenant, à mon avis, le travail des artistes, il est pas à lire de façon genrée, en fait.
Non.
D'ailleurs, j'aime bien que le mot artiste
soit neutre.
Voilà, on peut aussi bien dire une artiste qu'un artiste, et peut-être c'est ça, c'est parce qu'en fait, en art, peut-être qu'on peut échapper un peu mieux qu'ailleurs à toutes ces constructions de genre. C'est ce que je disais aussi, que l'art, c'est aussi se situer dans des endroits où on peut échapper à la norme, à l'autorité. Donc voilà, artiste, un artiste, une artiste, ça me va très bien, quoi.
Donc si on revient sur tes aspirations, qu'est-ce que seraient tes envies actuelles dans ta recherche? Est-ce que tu aurais envie de repartir à l'étranger pour te laisser inspirer par d'autres des surprises, ou est-ce que tu as des envies particulières?
En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de séjour à l'étranger. Depuis le Covid, il n'y en a pas eu, en fait. Parce que ça fait un peu reconsidérer toutes ces questions de partir de l'autre, oui, partir de l'autre côté de la planète. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que les choses peuvent pas se passer aussi dans des endroits qui peuvent être proches, mais tout aussi étrangers que voilà. Donc c'était un peu la question. Mais effectivement, j'ai envie d'explorer une nouvelle ville, parce que je suis à un moment de mon parcours où j'ai bouclé un certain nombre de projets, en fait, sont terminés. J'ai fait une expo personnelle à la galerie récemment, d'autres projets qui se sont conclus, voilà. Et donc, c'est un peu le moment où il faut que je redémarre quelque chose de complètement nouveau. Et je pense que ce rapport à une ville que je connais pas, ça peut de nouveau être un grand moteur. Et en fait, il se trouve que je vais faire un séjour à Lisbonne dans quelques mois.
Ah, très bien.
Oui. Donc c'est génial parce que je suis jamais allée au Portugal et c'est pas loin, enfin voilà. Et je pense que ça va être aussi un terrain tout à fait propice à de nouvelles recherches et réalisations. Et voilà, donc c'est en préparation d'un projet d'expo collective. Et donc j'aimerais beaucoup, en fait, à cette occasion, renouer avec la vidéo. Donc c'était une pratique qui était très importante au début, quand j'ai commencé, et que j'ai laissé de côté depuis quelque temps, notamment peut-être avec une pratique tout à fait différente de la céramique. Et j'aimerais bien, en fait, retrouver ce fil conducteur un peu qu'on peut faire entre la ville et le film, en fait.
Et donc si on te proposait une exposition solo, quel serait ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais?
Ah, solo. Non, j'ai essayé d'y réfléchir, mais je sais, en fait, je me projette plutôt dans des expositions qui sont en cours de programmation ou qui vont se concrétiser, plutôt que dans des expositions imaginaires idéales. Voilà, mais si on commence à m'en parler, bien évidemment que ça va me faire rêver, mais... Voilà, et là, ben, en ce moment, je suis très impatiente de vivre les expositions. Ce que je vais préparer à Lisbonne, c'est dans le cadre d'un festival entre Sète et Lisbonne. Et j'en fais partie grâce à une micro-tolérance pour Montpellier de l'association qui s'occupe de ça, l'association sétoise qui s'occupe de ça. Et ce sont des expositions qui vont faire se rencontrer les artistes des deux villes, en fait, les artistes de Sète et les artistes de Lisbonne. À Sète en septembre et à Lisbonne en octobre. Donc ça, c'est une idée, j'ai hâte d'y être et c'est, je pense que ça va être très stimulant, quoi.
Et enrichissant, c'est certain, oui.
Voilà, donc je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir. Il peut y avoir des choses anciennes et puis des choses déjà existantes et puis des nouveaux projets, parce qu'on va avoir pas mal de possibilités de lieux d'exposition. Donc voilà.
Mais Agnès Fornels, notre entretien va bientôt s'achever, donc j'aimerais bien, pour terminer, qu'on revienne sur une œuvre que tu aimes particulièrement, ou qui t'a marqué, ou sur laquelle tu as envie de t'exprimer.
J'ai envie de citer une série de photographies qui ont été réalisées par Hiroshi Sugimoto. C'est une série de photos qu'il a réalisées dans des salles de cinéma pendant la projection du film. Et donc, il y a ce principe que le temps d'exposition de chaque prise de vue est égal à la durée du film projeté dans la salle. Donc la salle se trouve vide de tout spectateur pour l'occasion de ces prises de vue. Et la projection du film, c'est la seule source de lumière en fait qui va éclairer la salle progressivement. Et l'écran où le film est projeté, bah, lui, il va apparaître d'un blanc lumineux très intense au milieu de l'image, et c'est un peu comme un vide ou un trou au milieu de la photo. Donc le film projeté disparaît du fait de l'accumulation lumineuse de toutes ces images.
Mmh. Très belle série, oui.
Oui, et donc, en fait, j'aurais pu, évidemment, il y a plein de choses qui donne envie.
Hein. Ouais. Mais, tu aurais pu citer aussi le...
Mais j'ai pensé à ça, et peut-être parce que ça fait le lien avec mon rapport à la photo, c'est-à-dire, en fait, ce qu'il fait là avec cette série, c'est quelque chose, il n'y a que la photo qui peut le permettre. Le cinéma, avec du cinéma, on ne pourrait pas le faire, par exemple. C'est vraiment le principe de cet outil qui est utilisé, en plus, peut-être un peu à contre-emploi, puisqu'on dit que la photo c'est un instant, et là pour le coup c'est une heure et demie, ou je sais pas combien de temps durent les films, mais et c'est aussi ça le principe de la photo en fait, et ça rejoint ces premières expériences que j'ai eues avec la photo, c'est-à-dire le travail de la voilà, dessiner avec la lumière, écrire avec la lumière, c'est
une inscription dans le temps aussi. Tu aurais pu aussi citer le poème dont tu as parlé tout à l'heure en espagnol,
oui.
et qui t'évoque pour toi la posture de l'artiste aussi.
Oui, le poème de Federico García Lorca,
oui.
Et donc qui s'intitule Prendimiento de Antonieto el Camborio en el Camino de Sevilla. C'est un poème qui raconte l'arrestation par la Guardia Civile d'un gitan qui se promenait et qui, sur son chemin, s'est mis à jeter des citrons dans le courant comme un geste qui produisait de la beauté. Et puis... ce gitan est emprisonné, et pendant ce temps-là, les gendarmes boivent de la limonade. Voilà, donc la limonade, c'est l'eau, le citron et la fraîcheur aussi de la spontanéité de son geste. Et donc ils sont comme si c'était bénéficiaire de précisément l'acte qu'ils ont réprimé. Donc... voilà, on peut faire une analogie avec la figure de l'artiste et parfois un certain rapport avec la société, un rapport que la société peut avoir avec les artistes.
Et merci beaucoup Agnès Pornels.
Avec plaisir, merci à toi.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.